Ça me fait vraiment plaisir quand j'entends ce qui a été prié avec le groupe d'intercession. Parce que c'est étonnant. En fait, c'est pas étonnant. C'est normal que Dieu dise la même chose là-haut qu'en bas. Mais c'est quand même encourageant pour la personne qui prêche. Parce que ça veut dire que Dieu, il a vraiment quelque chose qu'on entende aujourd'hui. Il veut vraiment qu'on écoute sa parole. Et Dieu, il nous a déjà parlé ce matin. Et je crois vraiment que ce que je vais partager maintenant, c'est dans la continuité et dans la confirmation de ce que Antonia a partagé à partir de le groupe d'intercession. Parce que ce matin, je vais vous parler de ce qui se passe quand on est brisé. Quand on est brisé. Alors, moi, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a les circonstances de la vie, il y a les gens qui ne sont pas toujours très tendres avec nous. Et ça peut être dans n'importe quelle situation. Il y a des événements sur lesquels on n'a aucun contrôle. Il y a les événements qui sont subis parce que finalement le monde a choisi de ne pas suivre Dieu, de rejeter Dieu, et donc forcément les actes et les gestes qui suivent sont des choses qui peuvent blesser, qui peuvent faire mal. Et soyons honnêtes, dans l'Église, parce qu'on n'est pas parfait encore, ça arrive. Mais cela arrive parfois qu'on est brisé, qu'on est cassé par les gens dans l'Église. Et on est encore plus déçu parce qu'on croit que dans l'Église, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et puis quand ça arrive dans l'Église, c'est « Oh, mais je suis où là ? Je croyais que je faisais partie de la famille de Dieu et on me dit ceci, cela, et je suis cassé. » Et ça fait mal et on est déçu. Et puis il y a aussi le fait qu'on peut être brisé parce qu'on subit les conséquences des mauvais choix qu'on a faits dans la vie. Donc, ce n'est pas toujours la faute des autres. Parfois, ça revient sur nous parce que justement, on a fait des mauvais choix. Et c'est notre manque d'obéissance envers Dieu qui nous mène à cette situation de casse. Alors, si par miracle, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais si par miracle, vous êtes là aujourd'hui sans avoir vécu un moment de casse ou de blessure dans votre vie, vous êtes une rare espèce. Personnellement, j'ai vécu plusieurs choses dans ma vie qui ont fait crack en moi. Et je suis sûre que je ne suis pas seule. Alors, comme je disais, je ne vous demande pas de lever la main, mais voilà, je vois là. Donc je sais que vous êtes d'accord avec moi. Et la Bible nous parle. La Bible nous parle de beaucoup de personnes qui ont été brisées à un moment donné dans leur parcours. Et on verra quelques exemples dans un instant. Mais juste pour vous dire avant d'y arriver, que sans intervention de Dieu, dans notre état brisé, on peut se trouver coincé dans les réponses naturelles, dont les deux suivantes sont peut-être les plus connues. La première chose qui se passe quand on est brisé, c'est qu'on a honte. J'ai honte de ce que j'ai subi, j'ai honte de ce que j'ai fait, j'ai honte de ce que j'ai pensé, et je dois le cacher parce qu'il ne faut pas, il faut surtout pas que les autres voient la casse en moi. Il faut présenter la bonne apparence. Et ça me coûte de temps et de l'effort. Pour le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une assiette brisée comme ça. Et vous essayez de tenir les deux morceaux ensemble pour ne plus voir la casse. Ça peut se faire temporairement. On pousse très très fort. Mais le problème, c'est que ça exige beaucoup de force. Ça exige beaucoup de concentration. On ne peut pas faire autre chose en même temps. Et tôt ou tard, la fracture va apparaître. Ça, c'est... C'est pas comme ça que Dieu veut qu'on vive nos vies. C'est pas comme ça que Dieu veut qu'on avance avec lui. Et on ne peut pas continuer notre vie comme ça. Donc ça, c'est la première réaction. J'ai honte. J'ai honte, il faut que je le cache. Quand Antonia a parlé ce matin des choses cachées, j'ai tout de suite pensé à ça. Donc, ça, c'est la première réponse qu'on peut avoir à la casse. Deuxième réponse, c'est que je commence à me définir par rapport à cette fracture dans ma vie. Et ça prend de plus en plus de place jusqu'à ce que je devienne incapable de voir autre chose que les 1000 morceaux qui m'entourent. Donc, c'est casse, 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 casse. Oui, c'est parce que je suis, cassée. Oui, c'est la casse qui fait ça. Oui, c'est... Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi. Et donc, ça veut dire que mes pensées, que mes paroles, que mes gestes, tout ça tourne autour du fait que je suis brisée. Jusqu'au point où je n'envisage même plus la réparation. Parce que j'ai tellement l'habitude d'être cassée que voilà, ça va toujours être comme ça. Et quelque part, on sera même un peu perdu si la casse n'était pas là, parce que ça fait tellement partie de notre vie que c'est un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je peux vous garantir que Dieu ne veut pas que ça continue comme ça. Quand je suis brisée, je me trouve face à trois propositions qui viennent de trois sources différentes. Alors, première proposition, ce que le diable te propose face à la casse, c'est la poubelle. C'est la poubelle. Et si on s'y jette tout seul, tant mieux. Parce que comme ça, il a pas besoin de faire un effort. Jean 10, verset 10, dit qu'il vient, on parle du diable là, le voleur, il vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Il faut savoir que le diable n'a aucune envie de voir une réparation dans votre vie, donc il va essayer d'empêcher ça. Il va encourager la honte, parce qu'il sait que la honte est quelque chose qui va nous plomber. Si je peux aller, je vais faire des couches de honte, comme ça on est de plus en plus abaissé, on ne peut plus rien faire, et plus vite on arrive à la poubelle, en fait. Donc ça, c'est la première proposition. Je pense qu'on est d'accord que ce n'est pas une proposition qu'on aimerait accepter. Et puis, il y a la deuxième proposition. Ce que le monde te propose, c'est de la colle. Il faut dire que parfois, dans le monde, il y a des bons conseils. Je ne suis pas en train de vous dire que les personnes autour de nous qui ne connaissent pas Dieu n'ont rien à apporter dans nos situations de casse. Parce que parfois, Dieu, dans sa bonté, il donne de la sagesse aux personnes autour de nous. Et donc, je ne suis surtout pas en train de dire que tout ce qu'on a en dehors de l'Église est nul, parce que ce n'est pas vrai. Mais le problème, c'est que parfois, les conseils sont moins bons. Et avec tout ce que le monde peut nous offrir, il faut qu'on fasse le tri. Juste pour vous donner un exemple. La semaine dernière, je suis allée chez le médecin. Et donc, j'attendais, j'étais dans la salle d'attente. Il y avait, tu sais, les petits tas de magazines qu'on voit et qu'on prend et commence à feuilleter. Et je tombais sur une page où c'était quelqu'un, un psychologue qui répondait aux questions sur les difficultés de la vie. Et quelqu'un avait écrit avec des difficultés dans leur mariage, que ça entrait dans l'ennui, que c'était dur, qu'ils en avaient marre, que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les conseils, et j'étais mais sidérée par ce que j'ai lu, les conseils de cette personne qualifiée était, ben, ce qu'il faut faire, c'est que chacun de son côté, le mari et la femme, il faut chercher un peu de pornographie pour rajouter un peu de piment à votre mariage. Et je suis là en train de le lire en me disant, mais non, si on cherche quelque chose qui va nous mener à la poubelle encore plus vite, ben c'est ça. Qu'est-ce que la pornographie a fait dans un mariage? Et là, on voit, Paul, il dit en 1 Corinthiens 3, verset 19, « Car ce qui se passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Et il ne faut pas chercher loin parfois pour trouver des exemples de la folie. Donc ça, c'est le problème avec ce que le monde propose. C'est qu'il y a du bon, mais il y a du moins bon. Et on ne peut pas simplement dire « oui, j'accepte tout ce qui vient ». Il faut que ça soit trié, il faut que ça soit pesé pour vérifier si on entre vraiment dans la sagesse de Dieu. Donc voilà, on a soit la poubelle, soit la colle pour faire notre... mais Dieu, il est tellement bon. Il est tellement bon. Et il a une proposition pour nous. Et c'est une proposition que j'aime bien. Alors, vous connaissez la publicité qui dit « Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?» Ben, c'est un peu comme ça avec nous. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, qui mieux que Dieu peut nous entretenir, peut nous remettre dans la bonne situation. Il n'y a personne qui nous connaît mieux que Dieu. Personne. Et on cherche partout et on cherche la sagesse ici, un peu de colle là, un peu de... Mais non, c'est chez Dieu qu'on va trouver ce qu'il nous faut. Et Dieu, il veut faire quelque chose. Ce que Dieu veut faire, il veut faire une réparation. Il sait réparer ce qui est brisé. Il a les moyens pour réparer ce qui est brisé. Ça, c'est très important. C'est pas que de la volonté. Parce qu'il faut les moyens aussi. Et ça, c'est peu importe la casse. Ça peut être ton cœur. Ça peut être ta relation avec Dieu. Ça peut être tes relations avec les autres, ça peut être ta foi, ça peut être tes valeurs, tes habitudes, ton espoir, ta confiance, ton image de soi. Tout ce qui est cassé, Dieu veut le réparer, d'accord? Et ça, c'est peu importe la raison pour la casse aussi. Ça peut être ton péché, ça peut être le péché des autres. Quand je dis qu'il ne s'intéresse pas aux raisons, oui, bien sûr, il s'intéresse pas, mais c'est pas la raison qui va lui dire est-ce que je vais le faire ou pas. Ouais, dans ce cas-là, ouais, je vais le faire. Non, ça c'est pas notre Dieu. Dieu, il est là pour restaurer. Alors, le prénom Jésus signifie que Dieu est salut. Alors, ces mots salut et sauvé contiennent non seulement l'idée de la réconciliation avec Dieu, le pardon pour nos péchés, ça c'est très important, bien sûr, mais ça parle aussi, on a une liste là, des mots qu'on peut comprendre dans ce mot « sauver ». Donc ça parle de secourir, délivrer, guérir, restaurer, réhabiliter, rendre entier. Tout ça, c'est compris dans ce mot « sauver ». Alors Jésus n'est pas venu pour se lamenter sur notre situation. Oh là là, t'es cassé, le pauvre. Okay? Ça, c'est pas Jésus. Il n'est pas venu non plus pour cacher les morceaux. Hop, si on fait hop, comme ça, personne va savoir qu'il y a un petit bout qui manque. Okay? Ça, c'est pas Dieu non plus. Donc, il a la volonté, il a les moyens de le faire. Et vous savez, sa première déclaration publique de ce qu'il est venu faire, une partie de cette déclaration, c'était « Je viens pour panser les cœurs brisés ». Dieu s'intéresse à ce qui est brisé. Ce n'est pas un truc de deuxième rang pour lui. Ça faisait partie « Je vais libérer les captifs, je vais guérir les malades, je vais proclamer sa faveur, je vais panser les cœurs brisés ». Donc, c'était vraiment une priorité pour lui. Alors, je vous ai dit que le monde nous propose de la colle. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un art japonais qui s'appelle kintsugi ou kintsugi. Je ne sais pas si on prononce léger ou pas. Et en fait, c'est une façon de réparer qui utilise de la poudre en or pour faire une réparation. Et l'objectif, c'est de continuer et d'embellir la vie d'un objet brisé. Alors, ça peut être un vase, ça peut être un pichet, ça peut être une assiette, etc. Donc, quand on a un objet brisé, on ne le jette pas. on ne le laisse pas en morceaux non plus, et on ne déguise pas le fait que l'objet a été brisé dans le passé. Mais quand on voit un objet comme ça, ce qui attire l'œil, ce n'est pas la casse, c'est la beauté de la réparation qui fait la différence. C'est la beauté de la réparation. Et lorsqu'on regarde l'objet, on ne voit pas une ligne sombre. Vous savez, quand vous collez une assiette, vous avez cette ligne un peu sombre là. Vous n'avez pas cette ligne sombre de fracture, mais vous avez une ligne qui brille et qui témoigne de la valeur donnée à l'objet par la personne qui l'a réparé. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Et j'aimerais vous donner deux exemples de la Bible. Alors, il y a quelqu'un, je parle beaucoup de lui quand je prêche, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses dans sa vie qui nous parlent. Mais parlons David. Parlons David. Pas encore. Parlons David. Il y a un roi. Si on regarde dans 2 Samuel 11, un roi, David, qui ne prend pas ses responsabilités parce qu'il décide de ne pas partir en guerre comme un roi devrait à ce moment de l'année. Il fait le voyeur, il se met à regarder les femmes légèrement habillées. Ensuite, il couche avec la femme d'un de ses soldats. La femme tombe enceinte et David organise la mort de l'homme parce que le mari va savoir que ce n'est pas lui le père de l'enfant. Puis ensuite David ment parce qu'il essaie de cacher ce qu'il a fait. En fait, il a brisé au moins des 5 des 10 commandements dans très peu de temps. Ça lui a pas pris beaucoup de temps pour faire tout ça. Et là, on a David, mais David, le roi choisi par Dieu, le roi qui était loin, le roi qui avait cet avenir magnifique, complètement fichu en l'air parce qu'il s'est laissé chuter, il s'est laissé prendre par ses désirs qui étaient mauvais et d'où ses mauvais choix. Mais confronté à son péché, et il est confronté à son péché. Il y a un prophète qui va le voir, qui dit, mais c'est du n'importe quoi ce que tu fais. Bah, il dit pas comme ça, mais je pense que Nathan avait quand même un vocabulaire un peu plus soutenu, peut-être. Mais Nathan, mais tu penses que tu es qui pour faire ça? Tu penses que Dieu ne sait pas? Et David, il est confronté à son péché. Il est brisé. Et on sait qu'il est brisé parce que dans Psaume 51, voilà quelques extraits. J'ai pas mis tout le psaume parce que c'est très long, mais ça montre, et c'est marqué clairement en haut du psaume, que c'est ce que David a écrit au moment de cette confrontation avec son péché par rapport à ce qu'il a fait. Aie pitié de moi, ô Dieu, quand je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Ça arrive assez souvent quand on est dans le péché. Ça nous poursuit sans cesse. Contre toi, il parle à Dieu, contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Les os que tu as broyés se remettront à danser. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ton salut. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Alors Dieu, il n'écarte pas les gens qui sont brisés par leur propre péché. Dieu ne les écarte pas. Ce qu'il cherche, c'est le changement de cœur qui permet le début de la réparation. Et c'est ce qu'on voit dans ce psaume-là. On voit que David, il se jette sur la miséricorde de Dieu. Et Dieu restaure David, mais il ne fait pas reculer l'histoire pour changer ce qui s'est passé. Ce qui est fait, est fait. Dieu, il n'est pas en train de dire, allez, on va faire comme si ça n'est jamais arrivé. Dieu ne fait pas ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'il change la façon de continuer vers l'avenir. Et ce qui aurait pu être une catastrophe, en fait, est devenu une source de bénédiction pour le peuple. De ce mariage, formé dans les pires de circonstances, honnêtement, quand je lis la liste de ce que David a fait pour faire ce mariage, un peu de meurtre, un peu d'adultère, un peu de mensonge, un peu de... C'est vraiment le paquet. Okay? C'est dans les pires de circonstances que ce couple a été formé. Mais avec la restauration de David, un enfant est né, aimé de Dieu, qui est devenu le roi le plus sage, le plus splendide de tous les temps, Salomon. Salomon, c'est le résultat de ce mariage. Dieu a choisi de bénir son peuple à travers cette situation parce que David a le cœur qui changeait. Mais il y a un point essentiel à souligner dans cette histoire de David. Parce que David a reconnu que la restauration exigeait un nettoyage. Ça exigeait un nettoyage. Si vous essayez de coller deux surfaces ensemble, et il y a de la poussière, il y a de la saleté, ce qui va se passer, c'est que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il n'y a pas assez de prise pour la colle. Et une chose que le monde ne sait pas faire, le monde peut proposer de la colle, mais le monde ne sait pas faire un nettoyage. Ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et le problème avec, quand on essaie de coller ça et ça n'a pas été nettoyé, c'est qu'on se demande s'il y a toujours des microbes dedans. Surtout pour ce qu'on utilise dans la cuisine. C'est, est-ce que je veux vraiment manger de cette assiette-là? Parce que, est-ce que c'est vraiment propre? Est-ce que c'est vraiment... Et la réponse, souvent, c'est non, c'est pas une très bonne idée. C'est interdit dans les cuisines professionnelles d'utiliser les choses qui ont été cassées et réparées. Justement parce que ça risque de contaminer ce que vous mangez. Et dans nos vies, il y a toute une liste de poussières qui peut empêcher la bonne prise de la réparation. Et ça dépend parfois pourquoi on est brisé, si ça vient de nous ou si ça vient des autres. Parce que quand on est brisé par les autres, la poussière, la saleté qui risque de s'installer, c'est la rancune, c'est le non-pardon, c'est la colère, c'est l'orgueil, parce qu'on commence à se voir mieux que les autres, parce qu'on voit leurs fautes, et ça prend de plus en plus d'ampleur. Quand c'est à cause de nos propres péchés, souvent c'est le mensonge, c'est le... l'amertume, c'est le désespoir. Je ne peux plus rien faire. J'ai raté mon truc et voilà, je ne peux plus rien faire. Le désespoir s'installe. Et il y a aussi le manque de foi qui peut être une saleté. On a perdu toute attente à ce que Dieu peut faire. Et surtout si on est brisé depuis longtemps et ça n'a pas été... nettoyer rapidement, il peut y avoir une grande accumulation de saleté, de poussière. Et donc, avant de faire quoi que ce soit en nous, Dieu veut d'abord faire un nettoyage. Parce qu'il sait qu'avec un nettoyage, la réparation, ça va durer. Ça va rester forte. Et donc, pour nous, si on veut dans nos vies une réparation en or, il faut qu'on soit prêt à laisser Dieu faire un nettoyage dans nos vies. Dieu, il a envie de démarrer le processus de réparation rapidement. Mais parfois, ça dépend de nous et de notre désir d'être réparé, notre désir de passer par ce nettoyage qui va permettre cette réparation. Donc ça, c'est notre premier exemple. Donc David, un homme vraiment cassé par ce qu'il a fait. Ensuite, on a un deuxième exemple. Jésus. Rien à voir avec David. Parce que si Jésus est cassé à un moment donné, c'est sûrement pas à cause de ses propres péchés. J'espère que vous êtes d'accord. Oui. C'est sûrement pas son péché à lui qui a fait en sorte qu'il subit le mépris, le rejet, l'abandon, les abus, la torture même, la mort. C'est pas à cause de ce que lui il a fait. Il n'avait rien fait. Mais lui, il est mort en portant nos péchés. Et quand Jésus parle de sa mort, il fait une comparaison avec le pain rompu. Et on voit là en Corinthiens 11, 23 et 24, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, il prit du pain. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce pain, il l'a rompu comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon corps. Voilà ce qui va se passer à mon corps. Et c'est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et si vous êtes là et vous voyez de temps en temps qu'on célèbre la Sainte Cène, c'est pour cette raison-là. Parce que Dieu a dit, voilà, je suis, mon corps était mis en morceaux pour vous. Et je veux que ça reste dans votre mémoire. C'est important. Et donc, ça, c'est le Jésus lui-même, il a fait cette association entre ce qui se passait dans sa vie et le fait d'être cassé, le fait d'être brisé. Mais ce qui est important dans cette histoire, on a dit, c'est pas la casse. C'est quoi? C'est la réparation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus? Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, Jésus, il est ressuscité, vainqueur de la mort pour toujours. C'est une bonne nouvelle, hein?
Ouais, c'est une bonne nouvelle.
Allez, c'est une bonne nouvelle, non? C'est bien. Vous êtes plus convaincus, là. Et le Père, il dit, dans ce cas-là, là, je vais pas simplement mettre un peu dehors. Non. Parce que c'est mon fils, et ça passe pas. C'est non seulement je vais mettre de l'or, mais je vais même l'embellir un tout petit peu, parce que c'est tellement magnifique ce qui se passe. Et c'est vrai que dans nos vies, parfois, les plus mauvais des casses peuvent avoir comme résultat la plus belle des réparations. Et là, avec Jésus, on voit vraiment le pire des casses et puis la plus belle des réparations. Mais vous savez, je trouve ça rassurant que même après sa résurrection, Jésus, il a gardé les traces de là où il avait été brisé, là où il avait été cassé. Même après un événement comme la résurrection, si c'était moi, je rigole parfois quand j'ai les douleurs, tout ça. Je dis, oh, mais j'ai hâte d'avoir mon corps de résurrection, là. Parce que là, franchement, je vieillis et c'est dur. Et je trouve ça intéressant que même après sa résurrection, Jésus n'a pas dit, bon, dans le nouveau corps de résurrection, ça va être tout beau, tout magnifique. Non, il a gardé les traces de son épreuve, de la chose qu'il a brisée. Il n'avait pas besoin de faire oublier sa mort honteuse et choquante. Parce que sa mort, c'était la mort la plus déshonorable et la plus choquante qui existait à l'époque. Nous, peut-être aujourd'hui, on a du mal à comprendre ça. Mais quand pour nous, on parle de la crucifixion, et on pense tout de suite à Jésus qui est mort pour nous. Mais le moment où Jésus a vécu sa mort, il a vécu une mort déshonorable et choquante. C'était honteux. Honteux, sa mort. Mais Jésus, après sa résurrection, il s'est dit, bon, on va faire semblant comme si ça ne s'est pas passé. Parce que maintenant, je suis vivant, donc on peut oublier tout ça. Donc, il n'a pas fait ça. Parce que la gloire du travail du Saint-Esprit en lui, et c'est, on lit dans la Bible, c'est le travail de l'Esprit en lui qui l'a ramené à la vie, faisait en sorte que la honte de ce qu'il a subi n'avait aucun pouvoir sur lui. Aucun pouvoir. Ce qu'il avait vécu, qui aurait pu être déshonorable, il n'y avait plus de déshonneur là-dedans. Il n'y avait plus de honte dedans. Et il n'avait pas peur, quelque part, de dire « Oui, j'ai passé par là. Ça m'est arrivé. » Mais vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Parce que ce que Dieu a fait par la suite, c'est glorieux. C'est glorieux. Et Dieu, c'est Jésus. Voilà, bah, c'est comme ça pour lui. Mais pour moi, est-ce que ça peut être pareil? Bah oui, ça peut être pareil pour nous. Parce que si on lit dans 2 Corinthiens 4, 6 à 10, alors c'est sur deux diapos. Donc, en effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes. Qui se sont parfois vases faits en argile? Pas si glorieux que ça. Mais il y a un trésor. Il y a un trésor dedans. Pour que, et voilà la partie super importante, d'où l'orange sur le diapo. Parce que quand c'est orange là-bas, il faut vraiment faire attention. Ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste. Et non notre propre capacité. Si on peut faire la suite. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non... Allez, on va reprendre là, parce que là, franchement, c'est une bonne nouvelle que je suis en train de vous apporter là. Ok, on va redémarrer à ainsi, d'accord? Vous êtes avec moi? Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant,
jamais écrasés.
Nous sommes désemparés, mais
non,
on est persécutés, mais
non,
terrassés, mais
non,
allez, moi j'aime bien ça, terrassés, mais non pas anéanti. On n'est pas anéanti. Et le problème, le diable, il veut nous faire croire que quand quelque chose passe dans nos vies, on est anéanti. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et nous avons besoin de saisir la vérité de ce que la Bible dit. Parce que sinon, on va passer nos vies comme les gens anéantis. Et ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour nous. Ce n'est pas ça que Dieu... Dieu a prévu une réparation en or pour nous. Et puis, là j'aime bien, en orange, vous avez remarqué, c'est important. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour que la vie de Jésus soit manifeste. Manifeste par notre corps. Moi, je veux que quand je passe devant les gens, même les gens qui ont vu que j'ai été cassée à un moment donné, moi, je veux qu'ils voient la vie de Jésus manifeste. Manifeste dans ma vie à cause de ce que Jésus a fait, parce que l'Esprit a fait du bon travail. Ça, c'est mon désir. Alors, il y a une évangéliste aux États-Unis qui s'appelle Anne Graham. c'est la fille de Billy Graham. C'est une femme, il y a quelques années, elle avait été nominée, désignée, je ne sais pas comment ça se marche, une des 5 personnes avec le plus d'influence aux États-Unis. J'ai dit « wouh ». Et elle a repris cette idée. Là, j'ai trouvé une citation que j'aime bien. « Si Dieu peut faire sortir une bénédiction du corps brisé de Jésus et de la gloire à partir de quelque chose de choquant comme la croix, il peut faire en sorte qu'une bénédiction jaillisse de mes problèmes, de ma douleur et de mes prières non exaucées. » Et ça, c'est un peu la synthèse de ce qu'on voit dans ce verset que Paul est en train de dire. C'est non, parce que oui, même si je suis faible, je suis cassée parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais c'est la vie de Jésus qui va se manifester en moi. Et c'est vrai, nous voyons dans la vie de David et dans la vie de Jésus que ce qui se passe quand Dieu intervient dans une situation de casse. Alors, toi, aujourd'hui, es-tu brisé? Es-tu brisé? As-tu des fêlures, des fractures dues à la dureté du monde? Ou est-ce qu'il y a des éclats qui se sont envolés à un moment de chute? Parce que ça peut se faire. Voilà ce que Dieu veut faire pour ta vie. Pas ça. On commence comme ça. Ça. OK? Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est sûr qu'il y a des choses horribles qui se passent. Mais il n'y a rien si horrible que Dieu ne peut pas donner de la beauté par la suite. Et quand je vois ça, tu vois, il y a un gros morceau qui manque là. Et qu'est-ce qui se passe? Le gros morceau qui manque s'est remplacé avec de l'or. On voit les fractures là où les choses avaient besoin d'être recollées. Qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas une ligne sombre avec des microbes qui traînent. Non. Ce qu'on voit, c'est quelque chose qui brille. Et quand on regarde, je ne sais pas pour vous, la première fois que j'ai vu cette image-là, j'ai regardé l'image et tout de suite, je regardais l'or qui brillait. Je ne me suis pas dit, oh, tiens, c'est une assiette cassée. J'ai dit, oh, que c'est beau. Et c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que parfois, on se sent tellement seul dans notre état de casse, de fracture, de je suis en morceaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on est dans la famille de Dieu. On ne s'est pas forcément cassé dans le même endroit, pour les mêmes raisons. Mais ce qui se passe dans la famille de Dieu, et quand on regarde autour de nous aujourd'hui, c'est les gens qui, à un moment ou un autre, ont subi quelque chose, soit de leur faute, soit pas de leur faute. Et Dieu a dit, non, on va mettre ça ensemble. Et quand on regarde les assiettes là, ce qu'on voit, c'est de l'or qui brille. C'est de l'or qui brille. Et on ne fait pas semblant de ne pas avoir passé par ces choses parfois. On n'a pas honte. Moi, je n'ai pas honte des choses que j'ai vécues. Parce que je sais que la gloire de ce que Dieu peut faire dans ma vie et ce qu'il a déjà fait dans ma vie est plus brillante que la puissance de la honte ou de... Et j'ai juste une chose vraiment à souligner aujourd'hui. C'est ne cachez pas les choses dans votre vie. Parce qu'il y a un pouvoir qu'on laisse entre les mains du diable. quand on n'arrive pas à dire ce qui ne va pas. Et tout le temps que ça reste caché en nous, c'est Dieu, il a envie de le prendre. Dieu, il a envie de faire quelque chose. Il a envie de faire cette réparation en or. Mais si on le tient comme ça, au fond de nous, la Bible dit, confessez. Confessez vos péchés les uns aux autres. Ce n'est pas pour que tout le monde puisse dire, ouh, qu'est-ce qu'il a fait? Ouh, regarde ce qu'il a fait. Oh, ouais, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. On n'est pas là pour apporter un jugement. Mais Dieu, il sait que quand on ne cache plus les choses, tout de suite, la réparation devient beaucoup plus facile. Parce que c'est très difficile de nettoyer quelque chose que tu es aussi en train de cacher. Donc, ramène ça à la lumière de du jour. Que ça soit lavé, que ça soit nettoyé, et que Dieu puisse commencer la réparation dans votre vie. Et c'est, il n'y a personne ici qui peut juger les choses de votre passé, parce que d'une façon ou d'une autre, on est tout passé par les choses qui sont moins que honorables, parfois. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est obligé de se mettre ici devant tout le monde pour dire voilà ce que j'ai fait. Voilà ma liste de péchés. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a les gens de l'Église qui sont là pour aider, pour accompagner dans la réparation. Donc, on n'est pas en train de dire, il faut annoncer tout ce que tu as fait devant toute l'Église, mais il faut briser cette idée de cacher, de secret, parce que la libération vient avec la vérité. C'est la vérité qui nous libère. Donc ça, c'est un encouragement. Vraiment, je reprends ce que Antonia a partagé, parce que il y a une puissance dans le fait de ne plus cacher quelque chose. Et donc, voilà, tout se casser, mais tout se réparer avec de l'or. Et la chose qui est importante dans tout cela, c'est que la réparation, c'est le témoignage pour toi de la grâce et de la puissance de Dieu dans ta vie. Et ça montre, parce que Dieu, il fait des réparations en or, et ça montre la valeur qu'il met en toi. Dieu ne dit, ah oui, un petit super glue 3, c'est non, c'est de l'or. Vous savez combien ça coûte, l'or? Ça coûte cher. Mais Dieu, il répare avec la chose qui coûte cher. C'est le sang de Jésus. Il n'y a rien qui a coûté plus cher que ça. Et la réparation est faite. Et on a un témoignage de la grâce et de la puissance de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter juste à fermer les yeux un instant. Il y a deux choses en particulier que j'aimerais soulever maintenant. La première chose, et de loin la plus importante, c'est que la casse la plus importante de notre vie, malheureusement, on est né avec. Et ça, c'est la rupture dans notre relation avec Dieu. Et si on n'est pas revenu à Dieu pour lui dire, Dieu, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Seigneur. Ça veut dire que la rupture existe dans ta vie. Et Dieu, il a fait tout ce qu'il pouvait pour réparer cette fracture. Mais il faut une réponse de ta part. Et il faut pouvoir dire à Dieu, oui, je veux être nettoyé. Je veux changer ma direction. Je veux marcher avec toi. Je ne veux plus marcher dans la désobéissance et dans l'égoïsme qui dit mon chemin, c'est le mieux. Quand on dit que Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'on dit Jésus, ton chemin, c'est le meilleur chemin. Et je vais le suivre. Et ça, c'est la plus grande rupture que Dieu a envie de réparer. Et donc, j'aimerais juste savoir s'il y a les gens ici ce matin qui sont en ce moment dans cet état de rupture. Vous n'avez jamais, tu n'as jamais dit à Jésus, « Jésus, je veux une réconciliation avec toi. Je veux revenir à toi. J'ai passé ma vie sans toi, mais je veux revenir à toi. » Parce que Dieu il dit tout de suite, « Moi, je veux faire le nettoyage et je veux réparer ça. » Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui dans cette position-là qui a envie de réparer leur relation?